À Rencontre spirituelle, aujourd'hui sera question d'une sainte extrêmement connue à travers le monde, Sainte Rita, qu'on appelle souvent aussi Sainte Rita de Cascia. C'est la ville où elle est née, C-A-S-C-I-A, Cascia. Elle est morte en 1447 et immédiatement les miracles sans nombre qui ont entouré son corps et sa mémoire ont fait d'elle celle qu'on appelle universellement la sainte des causes désespérées. Elle est vraiment très, très populaire. Quand on va dans de nombreux pays, il y a souvent un autel qui lui est dédié quelque part dans l'église, il y a sa statue, les gens y prient. On les voit surtout dans les pays latins, mais on la voit un peu partout dans le monde. Et un prêtre de l'ordre de Saint-Augustin, le père Agostino Trappè, qui a été prieur général d'ailleurs, et professeur de patrologie dans différentes universités de Rome, puis conseiller à la Congrégation pour la doctrine de la foi, un spécialiste de Saint-Augustin, il a consacré à Sainte Rita plusieurs ouvrages extrêmement intéressants. L'un des derniers parus est paru chez Mediapol, c'est le message de Sainte Rita. Il dit bien que cette dévotion, pour ainsi dire universelle, que nous vouons beaucoup de catholiques à la sainte de Cascia, ça a subi au cours des siècles des déviations importantes. Et ce sont des déviations même qui sont le lot de bien des dévotions d'autres saints. Pensons à Saint Jude aussi, à Saint Antoine de Padoue. Il y a plusieurs saints comme ça qui ont subi des déviations dans leur dévotion. C'est pas les saints qui ont subi des déviations. C'est que la religiosité populaire, parfois, se charge de transformer tout ça. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des affaires malheureuses, des dérives, quoi. C'est que il y a de l'exagération, de la piété qui conduit à une déformation d'abord des faits historiques, on raconte n'importe quoi. D'autre part, la réputation des miracles a eu pour résultat de cacher, d'occulter, comme on dit, le message principal. Et pour moi, le message principal de Sainte Rita, c'est le pardon. Or, c'est dans l'histoire des saints que l'on va chercher leur message. Il faut vraiment la connaître, l'histoire de chaque saint. Parce que chaque saint a son message propre à transmettre à chacun d'entre nous. C'est à nous de le trouver, le message, de l'accepter puis de le mettre en pratique. C'est simple. D'ailleurs, Dieu nous aide dans son Église en suscitant des saints, en les guidant par toutes sortes de chemins. Il les guide, les saints, vers cette imitation du Christ. Cette imitation qu'il veut enseigner à notre âme, car nous devons être des imitations du Christ, des imitateurs du Christ. Et Dieu nous soutient en opérant, n'est-ce pas, par l'intercession des saints, des prodiges qui sont souvent remarquables, hein, on le sait. C'est phénoménal, souvent. Les miracles qui sont obtenus dans l'Église par l'intercession des saints. Hier, j'en vous en ai raconté un qui a valu à Saint Marcellin Champagnat la canonisation le 18 avril dernier. Mais il arrive souvent des excès de piété. Les légendes qui se développent dans les milieux populaires sont très, très friands de merveilleux, on le sait. Ça fait passer, ils font passer les faits au second plan. On obscurcit au fond le message que Dieu voulait nous communiquer. Et c'est le cas avec Sainte Rita. On perd de vue, quoi, l'intérêt essentiel de la dévotion au saint. C'est quoi la vraie dévotion au saint? C'est la recherche de leur imitation, je le répète, qui constitue, selon Saint Augustin, il en a parlé, lui, l'essence même de toute dévotion. Il l'écrit dans la Cité de Dieu qui est avec ses confessions, son ouvrage principal, le plus connu. « Toute la religion, dit-il, consiste à imiter celui que tu honores. » Et il dit d'ailleurs dans un sermon, le sermon numéro 325, il dit « Honorer et ne pas imiter n'est rien d'autre qu'une adulation mensongère. » Je répète, « Honorer et ne pas imiter, c'est rien d'autre qu'une adulation mensongère. » C'est d'ailleurs ce que nous rappelle celui, le notaire de Cachia, l'auteur de la brève biographie qui précède ce manuscrit des miracles. Il a écrit tout un tas de miracles qui ont été obtenus par Sainte Rita. Il écrit « Dieu opère ses miracles par l'intercession de Sainte Rita parce qu'il veut montrer aux fidèles un modèle de vie. » C'est ça que Dieu veut nous montrer, un modèle de vie. C'est pour ça qu'il y a des miracles qui surgissent. Pourquoi imiter le Christ? Pourquoi imiter les saints? C'est parce que c'est le bonheur. Et Dieu veut notre bonheur. On peut donc dire que pour conserver cette richesse essentielle, il faut corriger les déviations. Il ne s'agit pas de rejeter la piété populaire ou de lui faire obstacle. Ce n'est pas du tout l'intention que j'ai. Ce serait une erreur. Hein? Même si certains voient dans la dévotion populaire un danger pour la religion. Je crois que ça peut au contraire être un atout. Regardez les foules qui vont à Lourdes ou au sanctuaire de Saint-Anne-de-Beaupré ou à l'oratoire. S'ils y reçoivent là un enseignement intelligent de la part des prêtres qui sont chargés de la formation des pèlerins, bien on peut, en allant vers le tombeau du frère André, du bienheureux frère André, ou dans ce lieu où on honore Sainte-Anne, ou chez la Vierge, au Cap de la Madeleine, on peut obtenir des enseignements qui peuvent donner au peuple ce qu'ils ne peuvent peut-être pas toujours trouver, parce que là, ils sont en groupe, ensemble, ils prient, et ils reçoivent davantage ce message clair de l'Évangile et de l'Église. Mieux vaut éviter d'entrer ici, de toute façon, dans ces discussions, qui seraient très utiles. Il reste que la dévotion à Sainte Rita touche d'une façon ou d'une autre au phénomène de la religiosité populaire. Il suffit de penser aux innombrables pèlerinages, dont je vous ai parlé tout à l'heure, vers les sanctuaires qui lui sont dédiés de par le monde. Et aujourd'hui, en ce 22 mai, ben demain, le 22 mai, c'est le jour de sa fête. Et il y a la bénédiction des roses, le jour de sa fête. Il y a des foules immenses, savez-vous, qui emplissent les églises. Puis il y a des multiples bouquets de roses là qui sont tendus, offerts à la bénédiction du prêtre. Ça peut être très beau parce que ça fait que l'entrée des églises où on la vénère comme ça sont transformées en jardins. C'est de toute beauté. Et ça plaît aux gens. La beauté. Je vais vous dire une chose banale, c'est beau. C'est agréable. Mais il faut que la dévotion à Sainte Rita, comme du reste toute dévotion authentique à un saint, ait des racines profondes dans la foi au Christ Jésus. Alors il faut identifier ces racines puis les mettre en lumière. On va essayer de faire ça chez Sainte Rita. Mais avant ça, je voudrais vous dire un texte de Paul VI qui a dit quelque chose de merveilleux à sujet de tout ça dont je vous parle. La religiosité populaire a certainement ses limites, dit Paul VI. Oui, c'est vrai qu'elle a ses limites. Mais si elle est bien orientée, c'est un pape très brillant, très intelligent, très cultivé qui parle. Hein? Mais si elle est bien orientée, la religiosité populaire, elle est riche en valeurs. Elle révèle une soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître. Cessons de mépriser dans l'Église les gens simples et les gens pauvres. Vous êtes-vous déjà unis à une foule à Lourdes ou à l'oratoire? Ou à Saint-Anne-de-Beaupré, tout en ayant des diplômes universitaires, pour chanter ces cantiques populaires, tenir un cierge à la main, vous mêler à la foule des gens simples, ça fait donc du bien. Ça fait donc du bien. Oui, parce que cette religiosité populaire rend capable de générosité puis de sacrifice jusqu'à l'héroïsme. C'est ce que dit le pape Paul VI quand il s'agit de témoigner de la foi. Il ajoute, elle comprend le sens profond des attributs de Dieu. Qu'est-ce qui sont les attributs de Dieu d'après Paul VI? Sa paternité, sa providence, sa présence amoureuse et constante. Et cette religiosité populaire, qu'il appelle plutôt, lui, la piété populaire, bien, elle suscite des attitudes intérieures que l'on retrouve rarement ailleurs au même degré. Par exemple, la patience, le sens de la croix dans la vie quotidienne, qu'il faut jamais oublier, la résurrection, d'accord, d'abord. Mais la croix aussi, qui mène au détachement, l'ouverture aux autres, puis à une vraie dévotion. En raison de tous ces aspects, dit Paul VI, nous l'appellerons volontiers, piété populaire, comme je dis, c'est-à-dire religion du peuple plutôt que religiosité. Et à tous ceux que le Seigneur a mis à la tête des communautés chrétiennes, il ajoute que la charité pastorale doit suggérer des normes de comportement devant cette réalité, une réalité à la fois riche et vulnérable. Et avant tout, il convient donc d'y être sensible et de savoir en saisir les dimensions intérieures puis les valeurs indéniables, puis d'être prêt à l'aider à surmonter les risques de déviation dont je vous parlais tout à l'heure. Paul VI termine en disant, car si elle est bien orientée, cette religiosité populaire peut devenir toujours plus pour le peuple l'occasion d'une vraie rencontre avec Dieu en Jésus-Christ. Ah, il me semble que c'est précisément la caractéristique de la vraie dévotion à Sainte Rita, c'est une rencontre avec Dieu en Jésus-Christ. Et je vais vous montrer à travers sa vie pourquoi. Cette sainte du silence et de l'apparente inactivité, elle a enduré un mari épouvantable. Mais n'oublions pas qu'elle a passé 40 ans dans un monastère en plus de son mariage d'une vingtaine d'années. Cette sainte qui, humainement parlant, n'a rien d'attirant et dont la seule originalité aura consisté à être toute sa vie marquée par la souffrance morale et physique, d'abord par son mari, elle est aimée du peuple. Parce que le peuple la sent proche de lui, puis se fie à son intercession. Puis la spontanéité vient s'ajouter l'universalité qui en est la confirmation, et la dévotion à Sainte Rita n'est pas le fait d'un seul peuple, je le répète, d'une seule nation, mais de nombreux peuples et de nombreuses nations à travers le monde. Et on peut dire que Sainte Rita compte aujourd'hui parmi les saintes les plus vénérées par les chrétiens. On sait qu'en dépit de cette vénération universelle, cette sainte Rita de Cachia ne figure toujours pas, c'est drôle, hein, au calendrier universel des fêtes liturgiques. Non, elle n'est pas dans nos livres officiels de prière de l'Église. Elle n'est pas là. À l'étonnement de bien des gens, d'ailleurs, la dernière réforme liturgique n'a pas encore été l'occasion de son inscription, puis je ne crois pas qu'elle le soit non plus. Il faut donc mettre dans la dévotion de Sainte Rita de la profondeur. Cessons de penser simplement à de la magie. C'est pas une idole. Par profondeur, qu'est-ce que j'entends? J'entends l'aspect, pour utiliser un mot que vous connaissez d'ailleurs, l'aspect christologique de cette dévotion. Elle nous ramène au Christ. Vous allez voir en quoi, puis dans le Christ de la croix, là, qui dit « Pardonnez-leur, Père, car ils ne savent ce qu'ils font ». Ceux qui aiment Sainte Rita semblent sentir instinctivement d'ailleurs, des gens très simples, que pour s'assurer la protection de leur sainte, ils doivent revenir à Dieu, ils doivent se confesser. Ils doivent prier pour vrai tout à coup et invoquer puis accueillir le Christ qui était vivant en Sainte Rita. Je répète, Sainte Rita n'est pas une idole, c'est une sainte où le Christ était si vivant qu'elle a mis en pratique quelque chose d'extrêmement difficile qui est le pardon. Vous avez vu ce film, Le Pardon, sur ce couple de la rive sud qui a pardonné à l'assassin de leur fillette il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années. Bouleversant. C'est donc en Ombrie, au centre de l'Italie, la province qui est au centre de l'Italie, dans la petite ville de Cachia, qu'est née Sainte Rita. Il y avait là, vers le milieu du 14e siècle, un couple, ses parents, n'est-ce pas, un couple de chrétiens, qui étaient particulièrement estimés de leurs concitoyens à cause de l'enthousiasme qu'ils apportaient à maintenir la concorde autour d'eux. Il y avait beaucoup de disputes dans ces milieux-là, à cette époque. Ils étaient déjà d'un certain âge, ils n'avaient pas d'enfants, puis en l'an 1381, Leurs prières sont enfin exaucées. Dieu leur accorde une fille qu'ils appellent Marguerite, et nous la connaissons sous la forme populaire de Rita, Marguerita. Rita, c'est la fin du nom. Et dès l'âge de 12 ans, elle a déjà le désir de se consacrer à Dieu par le vœu de virginité. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans les vies de saints. Ça arrive assez souvent. Et ça arrivait souvent à bien des jeunes filles dans l'Église catholique. Mais ses parents, qui sont déjà un peu âgés, donc, se sentent que la fin de leur vie approche. Ils ont peur de laisser leur enfant seul. Alors, ils décident de la marier. Rita finit par se soumettre tout simplement à leur volonté, et leur choix tombe sur un jeune homme issu d'une famille, bonne famille, quoi, mais d'un caractère brutal. Rita supporte bien des rudesses et des infidélités de son mari pendant 18 années qu'elle vit avec lui, là. Elle ne lui donne jamais quand même l'occasion d'une plainte. Imaginez-vous ça. Une femme qui ne se plaint pas des rudesses de son mari et de ses infidélités. Elle remet tout dans la prière. Vous direz que ça n'a pas de sens, mais c'est ce qu'elle a fait. À force de douceur, d'ailleurs, et de persuasion, elle finit même par le ramener à Dieu. Il faut le faire, hein, c'est héroïque, absolument héroïque. Le pardon. Cette conversion de son mari n'arrête pas cependant les rancunes de bien des gens que son mari s'était tué. Il y avait des habitudes de violence qui sont connues à Cachia. Et un jour, ses ennemis le massacrent sans pitié, puis on rapporte son corps à la maison. Sainte Rita est veuve. Elle est remplie de chagrin. Oui, parce que elle accepte généreusement son sort et elle bénit Dieu même alors qu'on vient de lui enlever la compagnie de son époux au moment où son changement de vie semblait devoir lui rendre son mariage agréable et paisible dans l'éducation de leurs deux fils. Elle pleure donc la mort de son mari. Et elle s'est même pardonnée généreusement au meurtrier. Comme ce couple dont je vous ai parlé, de la rive sud de Montréal, qui ont pardonné à l'assassin de leur petite fille de, je crois qu'elle avait 13, 14, 15 ans. Et Rita, Sainte Rita, fait tout pour faire partager ce sentiment de pardon à ses deux fils, mais c'est inutile. Ils ont le sang bouillant, eux. Alors, elle a peur qu'ils mettent à exécution leur désir de vengeance. Il y a une épidémie qui surgit. Et on se demande si cette épidémie n'est pas surgie un peu comme ça au bon moment. Parce qu'elle suppliait Dieu à ce moment-là au besoin d'enlever ses enfants à la vie plutôt que de permettre qu'ils ne souillent leur âme par un meurtre, le meurtre des assassins de leur père. Et cette épidémie lui enlève ses deux fils. C'est un double deuil, donc, qui vient s'ajouter à celui qui l'a si cruellement frappé. Alors, Sainte Rita est dégagée, désormais, des liens qui la retenaient dans le monde. Elle est seule. Elle décide de réaliser enfin le rêve qu'elle caressait depuis son enfance en entrant dans un monastère. Elle vient donc frapper à la porte du monastère des Augustines de Cachia. Ce sont des moniales qui suivent la règle de Saint Augustin. Mais l'accès lui en est refusé parce que l'usage de cette maison, qui est un peu spécial, c'est de n'accepter que des vierges, personne qui n'a été mariée. De retour chez elle, elle s'adonne à la prière et à la pénitence avec une ferveur renouvelée. Mais ses larmes, dit-on, ont touché le cœur de Dieu. Et là survient un miracle fantastique que je vous raconte. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais c'est une très belle histoire. Qu'est-ce qui arrive? Dieu lui envoie le secours de trois saints envers lesquels elle a une dévotion particulière. Saint Jean-Baptiste, et dont elle admire la grande humilité. Saint Augustin, patron des moniales de Cascia, et Saint Nicolas de Tolentino, un religieux du même ordre, un Augustin. Alors ces trois saints lui apparaissent une nuit. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous le devinez. Ils la conduisent par des chemins connus jusqu'à la porte du monastère, où on n'a pas voulu la recevoir, puis malgré les verrous et les barres de fer, ils la font entrer, puis ils disparaissent. Et quand les religieuses apprennent par quel prodige Rita a pu ainsi franchir le seuil du monastère, elles peuvent pas faire autrement que d'accueillir, évidemment, avec empressement, d'ailleurs, cette humble veuve, Sainte Rita de Cascia. Et Sainte Rita se met aussitôt à l'œuvre. Elle veut se sanctifier. Et selon la spiritualité de l'époque, elle réduit donc son corps en servitude par de nombreuses pénitences. Elle porte continuellement un cilice, disons une chemise de crin qui est rude. Elle coud à l'intérieur de sa robe des épines qui la torturent à chaque mouvement. Elle jeûne très souvent au pain et à l'eau. Elle passe la plus grande partie de la nuit en veille et en prière. Elle a coutume aussi de consacrer à la méditation de la passion de notre Seigneur le temps qui s'écoule depuis minuit jusqu'au lever du soleil. Elle s'unit si vivement aux souffrances de Jésus-Christ qu'elle répand beaucoup de larmes et que parfois on la retrouve sans connaissance. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Un jour, après avoir entendu un sermon sur la passion du bienheureux Jacques de la Marche dont je vous ai déjà parlé, elle demande à notre Seigneur de la faire participer à ses souffrances. On retrouve ça chez certains saints. Elle sent alors à ses tempes les pointes d'une couronne d'épines et son front est marqué d'une plaie qu'elle portera tout le reste de sa vie. Cette blessure profonde et douloureuse lui occasionne de nombreuses humiliations. Pourquoi? C'est terrible, s'en dégage une odeur fétide qui la condamne à un isolement complet. Elle y trouve une raison de s'adonner davantage à la prière et à la pénitence. Et sa patience et son amour dans cet état aussi douloureux qu'humiliant la rend de plus en plus agréable, dit-on, au Seigneur, qui lui accorde le don des miracles. Elle est surtout pourvue pour ça, le don des miracles. Une femme de Cascia est venue lui demander des prières en faveur de sa fille. Quand elle rentre chez elle, elle trouve son enfant guéri, et ce miracle et quelques autres qu'elle obtient du ciel la rend célèbre dans toute la région. Ça lui attire des visites nombreuses, parfois même de régions éloignées. Elle reçoit tous ces gens avec beaucoup de charité et personne ne s'en retourne sans avoir été consolé et surtout édifié. Une maladie qui dure 4 ans vient achever de purifier Sainte Rita par la résignation qu'elle apporte au milieu de ses souffrances. Lorsqu'elle s'approche de sa fin, elle demande les derniers sacrements et, après les avoir reçus, elle exhorte ses sœurs à l'observance fidèle. Observer les règles, pas faire n'importe quoi. Le règlement, quoi. C'est sanctifiant pour une moniale. Puis, elle met ses mains en croix. L'abbesse lui donne sa bénédiction. Et Sainte Rita de Cascia s'endort doucement dans le Seigneur. C'était le 22 mai 1457. Il y a, pour ainsi dire, 5 siècles et demi. Remarquable. Aujourd'hui, il est question de Sainte Rita, qui est morte le 22 mai 1457, il y a pour ainsi dire 5 siècles et demi, comme je viens de vous dire, et le lendemain de la mort, on expose le corps de Sainte Rita dans l'église du couvent, à Cascia, en Ombrie, dans le centre de l'Italie. Tous les habitants de la ville et des alentours accourent pour vénérer la sainte, dont on connaissait les miracles qu'elle faisait. Au nombre des visiteurs se présente une de ses parentes, qui a le bras desséché. Dans sa grande émotion, elle se jette en pleurant sur le corps de sa cousine, et aussitôt, elle sent la vie renaître dans son bras paralysé. Ses cris de joie divulguent aussitôt le miracle. Et ce n'est qu'un début. C'est incroyable, tous les miracles. Plusieurs miracles, donc, s'étant produits sur son tombeau, le pape Urbain VIII déclare bienheureuse Sainte Rita, c'est-à-dire Rita de Cascia, bienheureuse, le 16 juillet 1627. donc disons un siècle et demi après sa mort, ou un peu plus. Et puis, elle a été l'objet d'une dévotion si populaire que, sans attendre la canonisation, il est permis dans l'Église de lui dédier une église, justement, à Rome même, au pied du Capitole. Exceptionnel. Vers la fin de son procès de canonisation, au siècle dernier, Léon XIII a accepté que l'on procède en même temps à l'approbation des miracles, et elle est canonisée, savez-vous, le 24 mai 1900, c'est le jour de l'Ascension, c'est en même temps que Saint Jean-Baptiste de La Salle, le fameux fondateur des Frères des écoles chrétiennes dont je vous ai parlé récemment. On invoque Saint Rita contre la petite vérole, en mémoire sans doute de la plaie qui la marquait au front. Mais on s'étonne toujours de la rapidité puis de la générosité avec laquelle Sainte Rita a accordé son pardon au meurtrier de son mari qu'elle venait de convertir. Il arrive même que cela scandalise des gens. Il y a des gens qui disent « Jamais, moi, je ne pardonnerai comme ça », puis ils se disent catholiques. Ça nous fatigue qu'elle soit accusée d'inhumanité. Moi, elle n'est pas inhumaine, au contraire. Elle est une femme merveilleuse. Elle a préféré même, et c'est difficile à comprendre, la mort de ses enfants à leur sentiment de vengeance criminelle. Il les aura entraînés à un geste insensé de vengeance en assassinant les assassins de son mari. En fait, dans les deux cas, Sainte Rita s'est contentée de rester fidèle, finalement, à sa foi, c'est tout, en toute simplicité. Elle a la seule conviction d'accomplir son devoir de chrétienne, quoi, en suivant humblement l'enseignement puis l'exemple du Christ. Il faut pardonner. Regardez ce qui se passe actuellement au Kosovo. Les chrétiens sans nombre qui sont là, les médecins sans frontières et quantité d'autres, et qui vont pour secourir ces musulmans. Ce sont des musulmans, les Kosovars, même s'ils sont blonds aux yeux bleus. Et on pardonne. À ce qui se passe à Khartoum, au Soudan, on pardonne ce qui se passe au Timor oriental, où les communautés catholiques sont persécutées par les musulmans indonésiens, sans compter les autres endroits, en Algérie, etc. C'est terrible. L'Évangile ne contient pas seulement la loi incontournable du pardon. Non, non, non. L'Évangile insiste sur sa force et sa dimension qui n'admettent aucune excuse ni exception. Il faut le dire une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Évangile? On y voit l'exemple du Christ crucifié, lui le plus puissant. L'exemple aussi le plus puissant. Celui qui, plus que tout autre, nous engage. Pourquoi? Parce qu'il dit à son père, « Pardonne-leur. » Ils ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Surtout, on y découvre dans l'Évangile l'aspect le plus profond, le plus nouveau, du pardon chrétien. La relation indispensable entre pardon des hommes et pardon de Dieu. Oui, parce que pardonner parce que Dieu pardonne. Et plus encore, pour que Dieu pardonne. Et puis l'Évangile contient la prière du Notre Père. Est-ce qu'on ne récite pas le Notre Père? Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est clair? Le Notre Père, c'est une synthèse. C'est le modèle de toute prière qui nous est donné par Dieu lui-même par la bouche de Jésus-Christ. C'est la prière qui conditionne explicitement le pardon de Dieu au nôtre, à l'égard de nos frères. Dieu ne nous pardonne pas nos fautes si nous ne pardonnons pas les fautes qu'on nous a faites. Il faut se mettre ça dans la tête. Il ne s'agit pas d'un pardon négatif, là, inerte, presque forcé, fatigant, donné comme si l'on voulait se débarrasser d'un devoir pour ne plus en entendre parler. C'est pas ça, le pardon chrétien. Bien au contraire, il s'agit d'un pardon positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est un pardon qui a l'initiative, qui convertit en amour et qui atteint des sommets. Je reviens encore à ce film sur le pardon avec ce couple de la Rive-Sud ici, exemplaire au Québec des Québécois de chez nous, des vrais. C'est la loi du pardon. Est-ce qu'on le sait pour de vrai, ça? Oui, la loi du pardon est étroitement unie à celle de l'amour pour ses ennemis. Il suffit pas de pardonner, il faut aimer. C'est difficile, oui. Il faut aimer nos ennemis. C'est trop, non? Regardez ce qui se passe au Kosovo. Au Kosovo, avec les Kosovars. Tous les soins dont les chrétiens les entourent. On ne s'occupe pas du fait qu'ils soient musulmans. Ça n'a pas d'importance. Ce sont nos frères dans la foi. Et nous adorons un seul Dieu. Et de toute façon, même s'ils étaient athées, ça n'a pas d'importance. Ce sont nos frères. Nos sœurs. Prenons l'évangile de Matthieu. Il nous présente Jésus comme le législateur de la Nouvelle Alliance, le nouveau Moïse. Et le sermon sur la montagne que vous connaissez bien, qui résume en grande partie cette loi évangélique, ça met en relief la nécessité urgente de se réconcilier avec son frère avant de présenter son offrande à Dieu sur l'autel. Vous connaissez ça par cœur, j'espère. Hein? Ce sermon montre aussi que notre pardon est la condition du pardon de Dieu. Je dis les paroles de Jésus, là, vous les connaissez, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous cherchez ça? Vous voulez lire le texte? Évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Ces mots font immédiatement suite au passage où le Seigneur apprend aux apôtres à prier, comme s'il s'agissait de leur montrer la gravité de la situation. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la condition que vient encore illustrer la parabole du serviteur impitoyable. Hein? Vous connaissez ça? Vous pouvez la relire, cette parabole, au chapitre 18, toujours de Saint Matthieu, versets 23-35. Pas long, des belles histoires, ça. La connaissiez d'ailleurs. On remarque non seulement le sort implacable réservé au serviteur qui a pas voulu remettre sa dette à son compagnon, mais aussi la disproportion entre la dette considérable que son patron, qui figure Dieu, lui avait remise, 10 000 talents, c'est, disons 10 000 $, et la somme insignifiante, 100 sous, 100 deniers, 1 $, qu'il refuse d'annuler. Il refuse d'annuler une dette d'1 $, il est prêt à punir quelqu'un, puis il a obtenu de son patron, figure de Dieu, la remise d'une dette de 10 000 $. Saint Matthieu souligne enfin précisément au début de cette parabole le caractère inépuisable du pardon chrétien. Chrétien. Vous savez, regardez à travers le monde la capacité de pardon, malgré tout, des chrétiens. Regardez après la guerre comme nous avons porté secours aux Allemands. C'est le pardon qui fait ça. Vous direz, oui, 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 les intérêts économiques. C'est vrai aussi, les intérêts économiques. D'accord. Mis un grand élan de pardon. Je l'ai vu dans le cœur de Robert Schuman, ce saint français qui était ministre des Affaires étrangères de France, je crois, et qui devrait être canonisé d'ailleurs. Je vous en parlerai un jour de ce Robert Schuman. Quel homme au lendemain de la guerre qui a tendu le premier la main aux Allemands. Matthieu, Saint Matthieu, il souligne enfin précisément au début de cette parabole le caractère inépuisable donc du pardon chrétien. Et lorsque Pierre demande à Jésus, vous vous souvenez combien de fois il doit pardonner à son frère? Et s'il lui faut aller jusqu'à 7 fois, et Jésus répond quoi? Il reprend les mêmes termes, mais je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire ce qui signifie toujours, sans aucune limite. Hein? Il y a une corrélation entre le pardon et l'offense. Pour le chrétien, où et quand il y a offense, il doit y avoir aussi pardon. Ah, je sais, c'est pas facile. Mais il n'y a pas d'autre solution. Mais cet évangéliste, Saint Matthieu, a soin de mettre en évidence un autre précepte. Celui de l'amour des ennemis, car il représente l'aspect positif du pardon. Jésus le propose, en opposition à l'ancienne tradition. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Hein? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous calomnient. Oui, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous calomnient, ceux qui vous calomnient. Dans ce cas, comme dans tout l'enseignement du Christ, l'amour des ennemis est mis en relation avec l'imitation du Père et posé comme condition pour pouvoir être appelé enfant de Dieu. Autrement, on n'est pas des enfants de Dieu. Mais une autre raison revient tout aussi fréquemment, c'est la perfection du chrétien qui se doit d'être supérieure à celle des païens. Autrement, à quoi ça sert de s'attacher à Jésus-Christ? À quoi ça sert de se dire chrétien? Si toutes les religions se valent, c'est toute la même affaire. C'est pas vrai. M'excuse auprès des gens des autres religions. C'est pas vrai. Notre religion nous enseigne des choses qui sont pas enseignées à ce point-là par les autres religions et qui sont, quand elles sont enseignées, c'est pas aussi vivable parce que le Christ vivant n'est pas invoqué et on ne le reçoit pas dans l'Eucharistie vivante. Prenez les Mormons, ils n'ont pas l'Eucharistie vivante que nous avons, le Christ vivant. Oui, vraiment, ces deux préceptes du pardon et de l'amour des ennemis sont intimement unis. C'est ensemble qu'ils existent et qu'ils disparaissent. Et l'évangéliste Luc, lui, a la même perspective. Il rappelle lui aussi le caractère inépuisable du pardon chrétien, puis il dit, il rapporte ses paroles, « Si ton frère pêche contre toi 7 fois par jour... » Avec presque les mêmes mots que Matthieu, il souligne le devoir d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. Waouh! Bénir ceux qui nous maudissent. C'est d'ailleurs précisément Luc qui nous rappelle et qui nous rapporte la prière de Jésus crucifié. Père, pardonne-leur. Il faut faire comme Jésus, aimer finalement. Et saint Paul, quant à lui, reprend puis martèle l'enseignement des évangélistes, lui dans un style qui révèle toute sa personnalité. Écoutez-le, c'est formidable dans l'Épître aux Romains. Bénissez ceux qui vous persécutent. Oui, bénissez, ne maudissez pas. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Regardez ce qui se fait au Kosovo, c'est ça. C'est cet idéal qui inspirera l'enseignement des pères de l'Église et des théologiens. Prenons saint Augustin, qui est catholique évidemment, pour exemple. Les donatistes détestaient cordialement les catholiques. Ils ne voulaient rien avoir de commun avec eux, pas même le nom de chrétien, puis ils refusaient même de s'entendre appeler frères par eux, par les catholiques. Mais saint Augustin, catholique, recommande aux fidèles de les aimer, les donatistes, même contre leur volonté. Même contre leur volonté. Voilà en quelques mots tout un programme. Le chrétien doit aimer tout le monde. Il aime tout le monde, le vrai chrétien. Même celui qui l'offense, même celui qui refuse d'être aimé. Oui, même celui qui refuse. C'est beau le christianisme vivant. Ce que l'Église enseigne au sujet du pardon, on le trouve dans la théologie, mais on le trouve dans l'histoire aussi. L'histoire de l'Église s'est faite dans le respect de cette loi du pardon, en dépit de tout ce qu'on dit contre l'Église au sujet de l'Inquisition, les croisades, etc. On revient toujours sur ces choses-là. On prend deux exemples. Deux exemples parmi tant d'autres qui suffisent à le démontrer. Tandis qu'on le lapidait au début de l'Église, là, Saint-Étienne, le proto-martyr, le premier martyr. Avant de tomber sous les coups de pierre, il était lapidé. Il fléchit le genou. Il s'écrie d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et c'est ainsi que l'Église a commencé, par des martyrs qui pardonnent à leurs bourreaux, puis ça continue toujours. Pensez aux 7 trappistes, là, en Algérie, qui ont été assassinés. Il n'y a pas eu un mot de vengeance dans toute l'Église, je n'en ai pas entendu un seul. Je n'ai entendu que du pardon, de la compréhension à l'égard des islamistes, c'est-à-dire des extrémistes musulmans, des fanatiques musulmans. Tous les musulmans ne sont pas des fanatiques. Vous vous souvenez? C'est toujours comme ça encore. Monseigneur Claverie aussi, l'évêque d'Oran a été assassiné comme ça. Combien chaque année de prêtres, d'évêques, de missionnaires sont assassinés? 40? 45? Entendez-vous des cris de vengeance? Non. Quelle est la religion sur la terre qui endurerait tout ça? Je n'en connais pas, personnellement. Je n'accuse pas les autres religions. Je leur demanderai de faire pareil. Que l'Église a continué ainsi tout au cours, il y a toujours eu beaucoup de pardon. Et Sainte Rita est un anneau, un épisode, un moment de cette histoire. Et le mystère de l'Église qui aime et pardonne est quotidien. Qui a pu oublier après ce terrible 13 mai 1981? Vous vous souvenez, 13 mai 1981? La voix du pape qui s'élève d'une chambre d'hôpital, sa voix affaiblie par la douleur, mais rendue ferme par la force de l'esprit. Il a failli mourir, il est assassiné, mais ça n'a pas marché. Oui, c'est la voix de Jean-Paul II qui dit « Je prie pour celui qui a tiré sur moi et je lui ai sincèrement pardonné. » Ce sont des paroles auxquelles l'incertitude de survivre à l'attentat donnait une plus grande valeur et il pensait peut-être qu'il allait mourir. Ça donne un caractère sacré à sa parole. D'un martyr qui tombe, Jean-Paul II, et qui pardonne. Mais l'amour est plus fort que la mort. Et à ce moment-là, le successeur de Saint-Pierre, le chef de notre Église au nom de Jésus-Christ, le chef de l'Église, du Christ, était un imminent disciple de notre divin Maître. Comme tous les disciples du Christ au cours des siècles, les vrais disciples, pas les autres. La paix est un autre concept de base aussi du christianisme. On le retrouve chez Sainte Rita. La théologie spirituelle parlera beaucoup de la béatitude de la paix. Elle en fait le sommet de la perfection chrétienne. Puis comme Saint Augustin et tant d'autres après lui, la théologie le relie au don de sagesse, qui est le plus grand de tous les dons de l'esprit, la sagesse. Oh, si on était sage. Seul le sage est bien heureux. Seul le sage, oui, parce que c'est celui qui possède la paix intérieure et la fait progresser entre ses frères. Puis il y a aussi le thème de la croix, donc pardon, de la paix. C'est les trois aspects essentiels du message de Sainte Rita. Je vous ai dit combien elle avait embrassé la croix. Ils sont nés de l'Évangile. Ils en expriment les exigences fondamentales, ces thèmes-là, croix, pardon, paix. Ces thèmes-là confèrent à ce message une valeur intemporelle chez Sainte Rita. On pourrait se demander, ce message est-il actuel? Pas tellement, hein? Pas tellement. Pas difficile de se rendre compte que les thèmes de la croix, du pardon, de la paix, là, c'est pas des thèmes qui sont actuels. Surtout la souffrance. Mais cependant, la souffrance demeure, puis il faut donc de plus en plus s'épauler les uns les autres pour la soulager, la souffrance, pour trouver une autre solution. Or, il n'y a pas d'autre solution finale devant la grande souffrance que celle de l'amour qui accepte, qui la supporte et qui la transforme. On n'assassine pas ceux qui souffrent trop. On les soulage. On les appuie. Une observation s'impose d'abord. Si la spiritualité chrétienne contemporaine, peut-être tributaire de la culture actuelle, semble passer sous silence ce thème de la souffrance, elle affirme qu'il vaut mieux traiter de l'aspect positif du christianisme qui est l'amour, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est tout à fait vrai. Et je suis le premier à proposer que c'est l'amour d'abord. Mais bien souvent, l'amour se trouve aux prises avec la souffrance, qui tente non seulement de l'affaiblir, mais même de l'éteindre. On parle volontiers aujourd'hui du mystère pascal, la résurrection du Christ. On insiste habituellement, évidemment, sur cette résurrection, en mettant le Vendredi Saint en quelque sorte entre parenthèses, puis on ne va même plus à l'église parfois le Vendredi Saint. Moi, j'y vais rien qu'à Pâques. Voyons, voyons. On n'approfondira jamais assez la place qu'occupe la résurrection dans la vie du Christ, ça je suis d'accord. Dans notre vie à nous aussi, la résurrection du Christ est fondamentale. Mais il n'est pas juste de négliger le drame douloureux du Vendredi Saint, puisqu'il est la condition du dimanche de Pâques, et le thème de la souffrance n'est donc pas d'actualité de nos jours, oui, moins encore celui du pardon. Mais il faut insister. Il faut y revenir. Et Sainte Rita nous permet d'aborder ces questions, puis de se rendre compte que les factions rivales, les meurtres, les vengeances, c'est pas pour nous. La réconciliation pour l'amour de Dieu, pour la rémission des péchés et par sens du devoir, comme on le dit très sagement, comme le répètent les prédicateurs, c'est toujours très difficile à obtenir. Mais c'est la seule solution. Il faut chercher une solution. On pense à la suppression de la vie, l'avortement, le suicide, etc. C'est de l'hypocrisie. Il faut aller vers une preuve d'amour, qui est d'embrasser la souffrance. Parce qu'au creux de la souffrance, très souvent, quand on est assisté comme il faut, et en particulier par les sacrements, on ressuscite et on arrive à autre chose qu'à des instincts de mort, et on a des instincts de vie. Mais le dommage, c'est l'acharnement thérapeutique. Allons courageusement vers la vieillesse, quelques-uns d'entre nous, moi du moins. Il faut être courageux et se dire, « Seigneur, préserve-moi de l'acharnement thérapeutique et permets-moi d'imiter cet amour qui habitait Sainte Rita pour que je pardonne à tout, à tous, et que je vive dans la paix et la sérénité comme elle. » Amen.